Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le 258e numéro de Mélomanie et comme je vous l'avais annoncé il y a deux semaines, la fin du mois de janvier et le début du mois de février nous offrent un véritable feu d'artifice d'événements musicaux en tout genre. Jusqu'à dimanche, il n'y a pas une journée sans avoir la possibilité d'assister à un concert, un récital ou une représentation d'opéra. Autant dire que le sommaire de cette émission est particulièrement copieux et qu'il va falloir être efficace dans le temps qui nous est imparti. Dieu merci, je peux compter sur le soutien d'un duo de choc pour faire face à cette lourde tâche. Je salue Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et je salue également Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Le trio est reconstitué pour revenir d'abord sur l'actualité musicale la plus récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue aussi à vous deux et merci d'être encore à mes côtés lors de cette émission. Je propose que nous revenions pour commencer sur le troisième concert de la saison des Arts Renaissants. Il a été donné le mardi 23 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines par le jeune duo formé par le pianiste Charles Esser et le percussionniste Aurélien Gignoux. Ce rendez-vous était très attendu, d'une part parce qu'Aurélien Gignoux est originaire de Toulouse où il a été notamment élève au conservatoire et d'autre part parce que le programme de la soirée était très original. On peut dire qu'à ce titre, nous avons vraiment été servis, Serge.
Ah oui, absolument. Un programme très varié qui va dans tous les domaines, qui ne se prive de rien. Et donc, c'était très bien. Alors, il faudrait quand même rappeler que Aurélien Gignoux a gagné un prix important au concours international de l'ARD de Munich, un concours prestigieux, et également qu'il a été vainqueur aux victoires de la musique classique comme révélation soliste instrumentale de l'année, c'était en 2021. Il est déjà d'ailleurs venu jouer à Toulouse, hein, et donc il était là avec un collègue pratiquement du même âge que lui.
Oui, ils ont un an de différence.
Voilà, qui est un grand pianiste, qui hérite de ses parents, tous deux de grands, grands pianistes,
oui, c'est
également,
bon qu'on puisse dire.
On peut le dire. Et donc, tous les deux ne font qu'un, en quelque sorte, puisque pour moi, ce qui m'a frappé, c'était la fusion qu'il y avait entre les deux entités, en quelque sorte, les multiples instruments d'Aurélien Gignoux et le piano, qui n'est qu'une autre percussion, en fait. Hein. C'est tout de même un instrument.
C'est un instrument percussif.
Mais oui.
Corde frappée, donc.
Corde frappée, exactement. Et donc, on a eu deux parties dans ce concert extrêmement intéressantes, avec tout d'abord, dans la première partie, la musique française du XXe siècle, avec du Debussy, du Lili Boulanger, ce qui est assez rare. Lili Boulanger, c'est la petite sœur de Nadia Boulanger, qui est morte très jeune, mais qui a eu le temps de composer quelques œuvres que l'on donne de temps en temps. Et donc, c'était très bien. C'était, en l'occurrence, trois morceaux pour piano. Mais avant ça, il y a eu quelques extraits des six épigraphes antiques de Claude Debussy. Et là, ces extraits étaient en quelque sorte mêlés à des grands standards de jazz de Bill Evans, rien moins que Bill Evans. C'est tout de même osé, mais ça fonctionnait très bien.
Alors, oui et non, puisque Bill Evans lui-même revendiquait quand même l'influence des compositeurs français du début du XXe siècle, tels que Debussy et Ravel, par exemple.
Oui, exactement. Donc, ça marchait très bien. Et puis, on a eu aussi la percussion seule qui a traduit le premier mouvement de la fameuse sonatine de Maurice Ravel, qu'Aurélien Gignoux a nimbé en quelque sorte d'une poésie incroyable.
Oui, parce que c'est lui qui a réalisé l'arrangement pour marimba et petite percussion de ce mouvement, premier mouvement modéré de la sonatine de Ravel. Et c'était la première fois qu'il le donnait en concert. Il l'a annoncé avant de le jouer.
Vraiment un très beau moment, avec également, mais on est plus habitué à ça, l'Aidronette impératrice des pagodes, extrait de Ma mère Loire, de Maurice Ravel. Alors ça fonctionne à fond.
Formidable, oui.
Avec le marimba et le xylophone. Et puis donc les 6 épigraphes antiques de Claude Debussy. Voilà pour cette première partie. La deuxième partie, c'était tout aussi original, puisque le cœur de la deuxième partie était occupé par des extraits des Musica Ricercata de Gheorghi Ligeti, qui est une œuvre en plusieurs mouvements également pour piano, initialement, et qui là aussi était transcrite donc également. Alors c'était un peu le cœur battant de cette deuxième partie, avec des extraits évidemment, et notamment la sixième pièce, qui enchaînait avec des œuvres de Thelonious Monk et de Chick Corea. Voilà quel était l'environnement de Gheorghi Ligeti.
On a eu Bill Evans en première partie, et bien ensuite on a eu deux autres pianistes, deux grands pianistes de jazz, donc Thelonious Monk et Chick Corea.
Voilà, oui, oui. Alors avec toute la richesse rythmique qu'on connaît de Thelonious Monk, avec quelques standards de lui, qui étaient mêlés aux Musica Ricercata, et puis à un autre cycle, qui étaient les Children's Songs de Chick Corea. Là aussi, il y a eu un choix parmi les pièces, les nombreuses pièces qui constituent ce Children's Song, en mélangeant, là aussi, les styles, mais finalement, tout paraissait naturel. Donc, voilà, on a eu un moment un peu hors du temps et unique, en quelque sorte, puisque
sauf qu'il l'enregistre... C'est pas le genre de concert qu'on voit, c'est sûr, tous les soirs.
Non. Voilà. Et donc, finalement, alors, si certaines personnes du public ont pu être un peu décontenancées, bah, la majorité, quand même, a été très enthousiaste, puisqu'on les a rappelés plusieurs fois sur scène et ils sont venus présenter un bis... Alors, sous la forme du dernier des Children's Songs de Chick Corea, le 20e, donc, qui était là aussi très poétique et très beau, pour conclure ce récital vraiment hors norme.
Oui, et moi j'ai beaucoup apprécié. On va écouter la version de L'Aidronette, impératrice des pagodes, pièce extraite de Ma mère loi de Maurice Ravel, arrangée pour marimba et petite percussion par Aurélien Gignoux. C'est très réussi et je propose donc qu'on l'écoute une nouvelle fois dans cette émission. Thank you. L'Aidronette, impératrice des pagodes, extrait de Ma mère loi de Maurice Ravel dans une version pour marimba et petite percussion, arrangée et interprétée par Aurélien Gignoux. Voilà pour ce retour sur le troisième concert de la saison des Arts Renaissants, sachant que le quatrième a lieu très prochainement, mardi 13 février, où le trio Antai se produit à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et donc, deux jours plus tard, jeudi dernier, a eu lieu à l'Opéra National du Capitole la première représentation de La Femme sans ombre, l'opéra de Richard Strauss. Je rappelle qu'il en reste encore deux, les 31 janvier et 4 février, et que cette production reprend la mise en scène créée en 2006, au même endroit, par Nicolas Joël. Dans la fosse, les musiciens de l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Frank Berman. Et pour le reste, eh bien, je vais passer la parole à Robert Pénavert, qui a assisté à la première et qui va pouvoir nous faire part de ses impressions.
Voilà, alors assister à une représentation de la messe de la Femme sans ombre, pardon, c'est assister à une messe, voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que c'est un monument. La Femme sans ombre de Richard Strauss et le Parsifal de Wagner, c'est un monument. Alors c'est un monument d'abord qui dure 3h30, mais ce n'est pas une question de durée, mais c'est qu'également, il y a un message philosophique dans cet opéra qui se situe à trois niveaux différents, le domaine des faits, le domaine du pouvoir représenté par l'empereur et le domaine des humains représenté évidemment par le couple de teinturiers. C'est une œuvre très clairement difficile d'accès, mais on peut également la regarder, se laisser envahir tout simplement, même si, comme moi, on ne comprend pas tout. Moi, je ne suis pas très sûr d'avoir tout décodé dans le travail fait entre Hugo von Hofmannsthal, le librettiste, et Richard Strauss. Sa musique est d'une telle densité, d'une telle richesse que...
Ce que je veux dire, c'est une œuvre très dense, à la fois longue et dense.
Et dense, voilà. Moi, je ne suis pas très sûr qu'une vie suffise à comprendre parfaitement cette...
D'où l'intérêt de voir, de revoir quand ça se présente.
Alors, voilà, comme vous disiez très justement, Eric, la dernière fois, c'était d'ailleurs l'entrée au répertoire du Capitole de Toulouse en 2006, ça n'avait jamais été donné. Oui. Donc, nous la retrouvons 18 ans après. Quand est-ce que cet opéra sera à nouveau affiché au Capitole? Nul ne le sait. Alors, il y a différentes raisons. D'abord, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie lyrique d'un théâtre, mais il y a aussi une distribution à réunir qui est particulièrement difficile du côté féminin, puisque dans cet opéra, c'est avant tout trois rôles féminins absolument dantesques à chanter. Chacun de ces rôles, il y a des spécificités vocales extrêmement précises. Donc, on va commencer par la première qui entre en scène. C'est un personnage méphistophélique. C'est la nourrice, celle qui a pour mission de veiller sur l'impératrice qui, en s'aventurant sur Terre, a été capturée, on va dire, par l'empereur, alors qu'elle est la fille de Kaïkobad, qui est le roi des fées. C'est un être surnaturel. Elle est un être surnaturel, mais sa relation avec l'empereur en a fait une femme, mais pas une mère. Et alors le problème, la femme sans ombre donc, c'est que dans la symbolique de cet opéra, la maternité ne peut être conçue que si la femme porte une ombre. C'est-à-dire que si elle n'est pas transparente, c'est-à-dire si le soleil ne passe pas à travers.
Et c'est ce qui fonde son humanité donc.
Voilà. Exactement.
Et donc sa capacité à enfanter.
Voilà. Et l'histoire, c'est on arrive à la fin d'un cycle au début de l'opéra, et ce cycle risque d'être mortel pour l'empereur, puisqu'en fait, c'est un cycle 12 lunes. Ne me demandez pas de détails là-dessus, sinon on va y passer l'émission. Et ce cycle 12 lunes se termine, et si au bout de ce cycle, l'impératrice n'a pas enfanté, l'empereur sera transformé en pierre, et donc va mourir. Alors comment faire, évidemment, c'est le sujet de cet opéra. Donc la nourrice, elle sait où se procurer une ombre. C'est sur Terre, et plus particulièrement dans cette famille de teinturiers, puisque elle peut enfanter, mais ne se donne pas à son mari, parce qu'elle lui reproche mille et mille choses. Et donc, c'est la personne la plus fragile dans cette histoire-là. Et donc, toutes les deux, l'impératrice et la nourrice déguisée, vont se mettre au service de la teinturière et au bout d'un moment, vont lui demander de vendre son ombre. C'est magnifique parce que si elle, la teinturière, est un personnage acariâtre, difficile, etc., elle cache tout l'amour qu'elle a pour son mari. Son mari, non, par contre, son mari, qui est le seul personnage qui a un nom oui. dans l'opéra, il s'appelle Barak, c'est la bonté faite homme. Et lui, il lui passe tout, il aime tout le monde, y compris, c'est l'objet un peu de la dissension avec sa femme, hein, c'est-à-dire qu'il a recueilli dans son foyer ses trois frères. Les trois frères de Barak, c'est le borgne, le bossu et le manchot. Le moins qu'on puisse se dire, c'est qu'ils vivent sur le dos de la bête. Quoi.
Trois
c'est
vauriens, quoi.
Oui, c'est trois vauriens, voilà. Ouais, voilà. Ouais. Ils font rien, trois ils font que manger et dormir. Voilà, exactement. Alors, sa femme, la teinturière, en a marre de ça, mais Barak, il dit, tu comprends, ce sont mes frères. Quand je vous dis que c'est la bonté faite homme, c'est un peu ça. Voilà, bon, bref. C'est un opéra qui a un happy end, sauf pour, évidemment, la teinture, la nourrice, voilà.
La nourrice qui perd.
C'est la méchante qui perd, qui va être exilée à l'endroit pile où elle ne voulait pas aller, chez les humains.
Qu'elle déteste.
Donc c'est un opéra un peu à message, évidemment, parce que dans cet opéra, il y a des chœurs importants, même si on ne les voit pas. Ils sont très importants, mais ils font passer des messages. Et les messages philosophiques sont là. C'est-à-dire, il y a un cœur, par exemple, un cœur d'enfant à naître. Donc, si on n'est pas dans l'histoire d'Hofmannsthal, on peut passer un peu à côté de ces moments-là. Mais ça ne fait rien. Il suffit de lire les sous-titres et on se branche quand même très rapidement.
Oui, enfin, je pense aussi que ce thème de l'ombre, parce que c'est l'époque où la psychologie jungienne est sorti, c'est juste avant la Première Guerre mondiale, Jung, 1913 à peu près, hein, que ces théories commencent à filtrer. Et je pense que des Viennois, comme pouvait l'être Hofmannsthal,
ils en étaient forcément imprégnés.
Et je pense que cette histoire de l'ombre, c'est tout ce qui est rejeté dans l'inconscient.
Bien sûr, je suis
persuadé que c'est une des clés de compréhension de cet opéra, une parmi d'autres. C'est certainement
certainement parmi d'autres.
On est juste après la chute de l'Empire austro-hongrois. Hein. La chute, c'est fin de la Première Guerre mondiale, 1918. Il est 1919. C'est un empereur. Qui est aussi un des personnages principaux. Là aussi, il y a quelque chose d'historique.
Mais il y a mille clés dans ce...
C'est pour ça que c'est passionnant.
C'est passionnant. Moi, je pense que le mieux, c'est s'installer
bien sûr.
Tranquillement, lire les sous-titres sur des pages germanophones.
Les décors sont magnifiques, les décors sont très beaux.
Les décors sont magnifiques. Et c'est une prouesse technique, parce qu'en permanence, il y a ces trois niveaux de lecture géographique, le monde des esprits, le monde de l'empereur et le monde des humains. Et en permanence, on voit, c'est quasiment le plateau entier qui se soulève, qui s'abaisse, etc., avec des éclairages signés Vinicio Kelly. On le sait, c'est un magicien de la lumière. Et ça,
C'est un vrai spectacle aussi. Alors, bon. Si on fait maintenant, on passe en revue la distribution.
Parce alors, que la distribution,
c'est là
donc,
qu'on vous attend, bien
donc,
sûr.
Donc, la première à s'exprimer, à chanter, donc, c'est la nourrice. La nourrice, elle est en train de bavarder avec le messager de Kaikoba, donc le roi des esprits. Et donc, c'est là qu'elle reçoit un peu cette mission, d'autant que le messager lui dit, bon, t'as regardé l'heure, en gros, il lui dit, si à la fin de cette lune, l'impératrice n'est pas mère, ben, l'empereur sera statufié. C'est un moment important et c'est très difficile à chanter, c'est pour un mezzo-contralto, hein, qui, dès les premières mesures, c'est simplement pour dire, je ne sais pas à quoi pensait Richard Strauss en l'occurrence, mais il devait avoir une interprète certainement qui avait ses capacités, dès les premières mesures, la nourrice doit plonger sur un contre-mi grave. C'est des trucs incroyables.
Oui.
Beaucoup, d'ailleurs, ne le font pas.
Oui.
Beaucoup ne le font pas. Le font soit à la tierce, soit à l'octavie.
Oui.
Voilà. Même en enregistrement. Eh bien, à Toulouse, Sophie Coche, qui pourtant prenait le rôle comme l'ensemble de
la
toute la distribution, eh bien,
elle
s'est lancée là-dedans, mais avait un cran absolument incroyable. Quoi. Si vous voulez, c'est comme au saut à la perche quand vous tentez un 6m20. Vous n'êtes pas sûr d'arriver en haut.
Les conséquences ne sont pas les mêmes, mais on a droit à trois essais.
Ouais.
Là, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hein.
C'est vrai, tandis que là, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà. Donc, mais Sophie Coche, est, dramatiquement et vocalement, elle domine ce personnage. Elle est flamboyante. Vraiment, c'est une prise de rôle extraordinaire. Et pourtant, à côté, elle avait du lourd, du très lourd, y compris dont la teinturière de Ricarda Merbet. Rappelons qu'en 2006, Ricarda Merbet chantait l'impératrice, mais la tessiture de l'impératrice est beaucoup plus aiguë que l'impératrice, que la tessiture de la teinturière. Donc du coup, 18 ans après, ce qui est tout à fait normal, Ricarda Merbet n'a peut-être plus tout à fait la même facilité. N'oublions pas que l'impératrice grimpe jusqu'au contre-ray. Alors que, bon, bah, évidemment, même s'ils sont nombreux dans la partition, la teinturière plafonne, c'est un bien grand mot, plafonne aux contrutes. Alors évidemment, il y en a toute une charibauté de contrutes, mais elle ne va pas plus haut, tout de même. Eric Ardan-Berbet, encore une fois, fait une prise de rôle qui est bouleversante. Le duo du troisième acte, ça fait pleurer des pierres entre elle et Barak. Et ensuite, évidemment, il y a l'impératrice. Alors, l'impératrice, alors, pour le coup, c'est la première fois qu'elle chantait à Toulouse. Hein. C'est une soprano norvégienne qui s'appelle Elisabeth Teig et qui est plutôt spécialisée dans le répertoire wagnérien et straussien, mais également, comme elle aime à me le faire remarquer, non, mais elle me dit, mais il ne faut pas oublier que je chante aussi Puccini, et que le rôle de sa vie pour elle, c'est Suor Angelica. Elle me dit, mais j'attends qu'une chose dans ma vie, c'est qu'on m'offre Suor Angelica. Bon, j'espère qu'un jour, quelqu'un
ça lui offrira. Ça a dû être entendu, peut-être même au Capitole, on ne sait pas.
Donc, mais pour le coup, ça, son impératrice, même si le premier acte a été très clairement un tour de chauffe, si vous permettez cette expression, c'était la première. Au deuxième acte, franchement, elle n'a pas grand-chose à faire. Par contre, le 3 est très, très lourd. Et elle m'avait dit également que pour arriver au bout d'un rôle comme celui de l'impératrice, si on veut arriver entier, il faut vraiment gérer sa voix. Sinon, on n'arrive pas à la fin du troisième acte. Voilà pour les trois rôles principaux féminins. Mais il y a deux autres rôles très importants. Il y a le rôle de l'empereur. Alors, comme d'habitude, Richard Strauss a écrit une partition pour le ténor qui est bien sûr inchantable. Mais là, nous retrouvions au Capitole le dernier Bacchus de l'Ariane Anaxos de Richard Strauss, qui était l'Américain Isaac Savage. Il arrive au bout de tous les écueils de ce rôle, et disons que chaque note est un écueil. Voilà. Eh bien, il arrive au bout en souriant. Je ne sais pas très bien comment il fait, mais c'est une force de la nature. Et puis évidemment, il y a Barak. Alors là, nous découvrions un baryton basse
américain aussi.
Américain, Brian Mulligan. Lui, son répertoire, très clairement, c'est Wagner. Hein. C'est Wotan, c'est ces rôles-là. Hein. Et alors, il fait aussi un personnage, mais terriblement émouvant. Bon, la voix est magnifique. C'est une voix un peu claire. Peut-être on a l'habitude d'entendre des barytons comme Walter Berry, qu'on avait entendu, Serge, qui est peut-être un peu plus grave, mais lui, il a une voix claire, mais enfin, quand même, c'est bien une voix avec des harmoniques de baryton, ne vous trompons pas. Superbe également, un phrasé magnifique. Il faut dire que les plus belles phrases de l'opéra, en termes musicaux, elles sont réservées au rôle de Barak. Ensuite, bon, il y a ce qu'on appelle les seconds rôles, mais ici, ce sont des seconds rôles quand même de taille, hein. Donc, les trois frères, le borgne, c'est Alexei Isaev, le manchot, Dominique Barberi, et le bossu, Damien Bigourdan. Bon, ils ont été, moi je ne vois pas très bien comment on peut faire mieux que
rien
que
à leur reprocher.
Ils ont été tout à fait dans non seulement dans l'esprit et dans le niveau extraordinaire cette représentation. L'autre rôle important, évidemment, c'est celui du messager des esprits, celui dont nous parlions tout à l'heure. Et c'est Thomas Dollier qui est en train de changer un peu de voix. La voix s'est étoffée, la voix prend de l'ampleur. Voilà, donc c'est intéressant de voir un peu ce qu'il va faire par la suite. Les chœurs et la maîtrise ont été magnifiques. Voilà, Frank Berman, vous l'évoquiez tout à l'heure, un orchestre de 80 musiciens qui débordent dans les loges d'avant-scène et nous a donné à écouter une partition flamboyante, quoi, tellurique. C'était un flot de lave qui s'est écoulé dans la salle du Capitole et le tout a reçu un triomphe.
Mais si je vous comprends bien, il n'y a pas beaucoup de réserves à faire, hein, tout de même. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y aller. J'ai un très court extrait de la musique de La Femme sans ombre à vous faire écouter, interprété par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Frank Berman. Il a été enregistré à l'Opéra National du Capitole il y a quelques jours. extrait de la musique de La Femme sans ombre jouée par les musiciens de l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Frank Berman à l'Opéra National du Capitole. Il reste donc deux représentations du chef-d'œuvre de Richard Strauss, le 31 janvier à 19h et le dimanche 4 février à 15h pour la dernière. Et il y a encore des places, alors profitez-en pour découvrir cette magnifique production. C'est également à l'Opéra National du Capitole que Matthias Goerntz s'est produit en récital vendredi dernier, le 26 janvier, accompagné par son pianiste habituel Alexander Schmalz. Il a chanté des leaders de Robert Schumann et Johannes Brahms. Robert Pennavert était bien sûr présent dans la salle pour assister à ce concert dont le programme était taillé sur mesure pour le grand baryton allemand. On peut vraiment le dire, Robert.
Oui, oui, tout à fait. Alors, ça a été une drôle soirée, en définitive, parce que nous le savons, Matthias Goerntz devait prendre le rôle de Boris Godounov au Capitole il y a quelques semaines. Il a annulé. Il y a trois jours, on a appris qu'il a annulé également son Boris au Théâtre des Champs-Élysées la semaine prochaine. Donc, on se demande s'il n'y a pas un petit sujet. Bon, et malheureusement, on ne se l'est pas demandé longtemps, puisque donc, Christophe Christy est arrivé avec... à l'avant-scène, avant le concert, avant le récital, pardon, avec un micro. Et là, c'est jamais très bon signe.
Oui.
Et donc, il nous a annoncé que malgré une méforme que nous souhaitons passagère, bien évidemment, Matthias Goerntz avait tenu à faire ce récital.
À honorer son engagement,
mais qu'il avait complètement changé le programme. Donc, le programme initial, et c'était lié à la présence de La Femme sans ombre au Capitole en ce moment, hein, il y avait Wagner, Strauss, bien sûr, et Pfizner. Donc, on était complètement dans une espèce de filiation philosophique et musicale. Eh bien non, il est arrivé avec un tout autre programme dont les deux cœurs battants étaient en première partie. D'ailleurs, il n'y a eu qu'une partie, hein. Il n'a pas fait d'entracte. Hein. Et qu'une partie, la première partie, si l'on peut dire, donc c'était les Dichterlieb, les amours du poète, donc de Robert Schumann. Et ensuite, il a terminé, il a clôturé avec une œuvre de Brahms.
Lieder und Gesang.
Voilà, Lieder und Gesang, l'opus 32. Je cherchais l'opus. L'opus 32 de Johannes Brahms. Bon, alors attention, c'est quand même au total 1h15 non-stop.
Oui, c'est quand même assez consistant.
C'est assez consistant. Et alors, le public, pas tétanisé, c'est pas ça, parce que ce serait péjoratif, hein, mais en fait, le public un peu sidéré de voir cet homme qui, à l'évidence, est fatigué, effectivement, qui cherche un peu ses respirations, dont le timbre est légèrement altéré, bien sûr, mais il se lance dans 1h15 de leader, et pas forcément facile à chanter, mais avec un professionnalisme, une musicalité, une intensité intellectuelle absolument sidérante. Alors, je voudrais ajouter également que, grâce, entre guillemets, au fait qu'il y ait eu ce changement de programme un peu au dernier moment, dont le Théâtre Capitole n'a pas eu le temps de faire le programme de salle tel qu'il le fait avec les textes en français des leaders. Et donc, du coup, pour la première fois, ce récital de leaders a eu droit à un sous-titrage en français. Et je peux vous dire que lorsque Christophe Christy l'a annoncé, il a été copieusement applaudi. Voilà. Oui, je me demande si ça ne serait pas une expérience à renouveler.
Ah oui. Oui, c'est toujours bien, je pense, effectivement, d'avoir quand même le sens des poèmes, parce que ce sont des poèmes en général, sur lesquels ces leaders sont composés. Hein. Oui, ça me semble une initiative à renouveler autant que faire se peut, parce que c'est peut-être pas si simple que ça.
Oui, non,
à
parce
faire,
que hein. C'est un travail supplémentaire.
C'est un travail supplémentaire,
c'est évident.
Aussi,
hein. Ouais. Voilà. Un coup,
et là, c'était les textes, ce sont des poèmes d'Heinrich Heine. Ouais. Ça vaut le coup quand même de comprendre.
Même,
alors, les germanistes, eux, comprennent, mais bon...
Oui, mais est-ce qu'il y en a beaucoup dans la salle?
Là, je ne pense pas. Non.
Je ne sais pas. Je ne veux pas dire, mais si c'est chanté en espagnol, peut-être qu'il y a beaucoup plus de gens qui comprendraient.
Oui, bien sûr.
Voilà. Bon, donc, évidemment, il n'y a pas eu de bis, parce que ça n'a pas été trop réclamé non plus, parce qu'on a compris que, quand même, il est...
Ce n'est pas la peine de le pousser dans ses retranchements.
Voilà, c'est ça. Et alors, je me demandais si, en définitive, parce que quand même, ces deux cycles de leaders sont des sites douloureux, comme beaucoup d'ailleurs de leaders allemands ou même de mélodies françaises. Et je me demande si les véritables difficultés qu'il a aujourd'hui et son souci de les surpasser n'ajoutent pas à l'intensité de son interprétation. Voilà.
C'est pas impossible.
J'ai voulu le ressentir comme ça.
Eh bien, nous allons avoir le plaisir d'écouter Matthias Goerne au meilleur de sa forme, parce que c'est un extrait d'un CD, dans une interprétation du premier lied du cycle Dichter Liebe, composé par Robert Schumann sur des poèmes d'Heinrich Heine. Il a pour titre Im wunderschönen Monat Mai, et Matthias Goerne est accompagné ici par le pianiste russe Daniil Trifonov. Im wunderschönen Monat Mai, premier des 16 leaders du cycle Dichter Liebe de Robert Schumann, chanté par Matthias Goerne, accompagné par le grand pianiste russe Daniil Trifonov. Fin de cette première partie d'émission. On se retrouve dans quelques secondes avec Serge Ozy et Robert Pénavert pour notre rubrique Agenda. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie, toujours en compagnie de Serge Chauzy et Robert Pénavert. Robert va d'ailleurs garder la parole, puisqu'en ce moment, c'est un peu la fête à l'Opéra National du Capitole, où deux autres récitals sont proposés au public le jeudi 1er février de le même jour. Tout d'abord, il y a un midi du Capitole, où nous allons pouvoir entendre le baryton russe Alexis Isaev, qui joue en ce moment le borgne dans La Femme sans ombre. Robert, quel programme va-t-il chanter le 1er février ? À midi et demi, c'est midi du Capitole, mais c'est à midi et demi. Et il sera accompagné au piano par Robert Gonella.
Alors, d'abord dire qu'Alexei Isaev, nous l'avons découvert lors de la création de la Rusalka, puisque c'est lui qui chantait Votnik, et dont on a vu également ses talents de nageur, puisque oui. il a passé toute la soirée à plonger
dans la
piscine qu'il y avait au milieu de la
il
scène.
Il avait été formidable.
Ah ben il a été fabuleux. Et là, il vient, mais non pas comme d'habitude, parfois avec des mélodies de son pays, etc. Non. Pas du tout. Il vient avec un extrait d'Otello, un extrait de Tosca, et puis rien moins que le Te Deum, un extrait d'Aleko, un extrait du Prince Igor, et ensuite, en deuxième partie, si l'on peut dire, un extrait des saisons. Alors ça, pardon.
Ça, c'est Robert Gonella qui va nous jouer.
C'est Robert Gonella, pardon.
Le mois de juin, évidemment, comme d'habitude, des saisons de Tchaïkovski.
Piano solo. Et ensuite, de Verdi, La Force du Destin. Et on sait bien combien le baryton est sollicité. Ensuite, Le Démon de Rubinstein, qui est un très bel opéra. Et un extrait de La Dame de Pique. Alors, non pas l'air de Yeletsky, mais celui de Tomsky. Donc c'est un récital absolument somptueux et qui est accompagné par Robert Gonella. Alors au sujet de Robert Gonella, je voudrais dire que ça va être un événement particulier puisque ce sera son dernier midi du Capitole.
Ah oui.
Voilà. Puisque, bon, tout arrive, hélas.
Il part à la retraite.
Et à mon avis, c'est parce qu'il doit partir à la retraite à la fin de cette saison. Et combien il en a accompagné.
Oh là là.
Il aurait de quoi écrire un livre.
Ah, c'est une page qui se tourne. D'ailleurs, peut-être qu'il va écrire sa mémoire.
Sur ses midis du
en
Capitole.
Tout cas, il faut lui suggérer.
Mais donc, cet immense pianiste et chef de chant.
Ah, c'est un pilier de la maison.
Hein. A accompagné, et beaucoup de chanteurs, depuis près de 30 ans, viennent au Capitole prendre des rôles. Parce qu'ils savent que Robert Gonella
et préparé.
Et, sera là comme chef de chant.
Par Robert Gonella.
Il est connu mondialement.
Oui, oui, oui. Mais vous l'avez souvent dit dans cette émission, hein,
voilà.
Quand vous parliez de lui, soit alors, pour des récitals ou effectivement pour préparer les chanteurs qui vont se produire dans les opéras, sur la scène du Capitole.
Voilà. Donc, un jeudi lyrique, puisque donc, midi et demi, Alexei Isaïev, 20 heures.
Alors, on va quand même écouter Alexis Isaïev, si vous permettez.
On va
se faire quand même ce petit plaisir.
Je croyais que nous n'avions pas le
non,
temps.
Non, non, si. Là, il faut qu'on l'écoute parce que c'est un formidable chanteur. Un des airs qu'il va chanter, il trouve que j'ai un extrait. Et l'extrait en question, c'est l'air de Scarpia dans Tosca, Tre sbirri una carrozza.
Tre sbirri una carrozza, presto! Segula dovunque vada, non hai visto propedi.
Sta bene, il convegno.
Palazzo Farnese. Tosca. Nel tuo cuore s'annida Scarpia.
Beau ça, c'est beau la manière qu'il a d'enchaîner la messe à Divoce.
C'est fabuleux. Il est formidable ce chanteur Alexis Isaïev que l'on vient donc d'écouter dans cet extrait de Tosca, Tre sbirri, una carrozza qui est au programme de son midi du Capitole, jeudi 1er février à midi et demi, où il sera donc accompagné par Robert Gonella. Et puis le même jour, toujours à l'Opéra National du Capitole, a lieu cet autre récital à 20h donné par un ténor, cette fois-ci l'Argentin Marcello Alvarez. Et là, le programme et l'ambiance vont être assez différents, Robert, avec cette légende du bel canto qui avait fait les beaux jours du Capitole au début des années 2000. Je ne suis pas certain qu'on l'avait revu depuis, hein, mais vous avez ça quelque part dans
mes mémoires. Alors, comme j'étais sûr que vous alliez m'interroger là-dessus...
Oui, petites archives.
Je suis plongé dans mes archives. En fait, nous l'avons découvert, il avait 34 ans, en 1996.
Ah, c'était même avant les années 2000.
Oui. Voilà. Et nous l'avons découvert dans un Duc de Mantoue, Rigoletto. Ah, il était jeune, mais il ne le fait plus, le Duc de Mantoue, mais aujourd'hui. Mais surtout, je voudrais rappeler, 1998, il a chanté une Lucia di Lammermoor, Edgar Dodon. Moi, je crois, c'est le plus bel Edgardo que j'ai entendu, disque inclus. C'était quelque chose d'absolument, un moment de grâce, absolument fabuleux. 1998, Hôtel de Capitole. Et en 2000, l'année 2000, nous l'avons eu deux fois, Werther et Nemorino, l'Élixir d'amour. Et pour la dernière fois, évidemment, bon, évidemment avec le temps, le oui. timbre se corse, la physiologie vocale change. Et en 2007, il est revenu pour Carmen, Don José.
Donc on ne l'avait pas vu depuis plus de 15 ans tout de même.
Et oui, depuis plus de 15 ans.
Je
ne
pense pas qu'il soit venu en récital entre-temps.
Non. Alors, donc, il vient accompagné au piano par Giulio Laguzzi et dans un programme aussi, vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, costaud, puisqu'il commence avec le grand air du Cid de Jules Massenet, avec l'opéra éponyme, au souverain, au juge, au père. Il enchaîne avec la fleur que tu m'avais jetée, Carmen. Ensuite, il y aura un solo de Robert Gonella.
De Giulio Laguzzi.
Giulio Laguzzi, Rêverie. D'Alfredo Catalani. Ensuite, Marcelo Alvarez revient sur scène avec le grand air du Roméo, du Roméo-Juliette de Zandonai. Giulietta Sonillo, c'est l'air du tombeau, ce qui correspond à l'air du tombeau. Piano solo à nouveau pour une barcarolle écrite par Roger Leon Cavallo. À nouveau, le Marcelo Alvarez vient clore cette première partie avec un hyper tube. C'est le Lamento de Mario Cavaradossi dans la Tosca et Lucevan Le Stelle. Un entracte pour que tout le monde se repose. Il revient alors dans un autre style avec de la zarzuela, puisque la première, c'est extrait de la Maraviglia de Torroba, Amor Vida de mi vida. Bon, ça, tous les Toulousains connaissent cet air par cœur. Ensuite, il y aura pour piano solo un morceau, une composition d'Enrique Granados, Andaluza. Ensuite, à nouveau, Pablo Sorozabal avec une des plus grandes zarzuelas du répertoire, la Tabernera del Puerto, No Puede Ser. Qui ne connaît pas No Puede Ser? Ensuite, pour piano solo, un tango, signé Zach Albéniz. Ensuite, une mélodie, alors pour le coup, c'est pas une zarzuela, hein, Non ti scordar di me de Curtis, une tarantelle de Leon Cavallo pour piano solo. Évidemment, il termine avec cette chanson napolitaine très connue, Core ingrato de Salvatore Cardiglio. Et je pense que je ne perdrais pas beaucoup d'argent si je pariais qu'il y a un programme de bis derrière.
Oui, ça, on peut certainement parier comme vous dites, oui. D'autant plus qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps, ce n'est pas sûr qu'on le revoie de si tôt, donc je pense qu'on va en avoir pour notre argent.
Ah oui, oui. Non, mais en plus, c'est un chanteur très généreux qui aime Toulouse, il n'oublie pas quand même. Il a fait des prises de rôle.
Pendant quelques années, on l'a vu souvent.
Oui, on l'a vu souvent, c'était l'époque Nicolas Joël.
Hein. Ouais. Et bien, voici un aperçu du programme que va chanter Marcello Alvarez sur la scène du Capitole le 1er février à 20h. C'est encore un extrait de Tosca, vous l'avez annoncé, Robert, et Lucevan Le Stelle.
Frenente la palla.
Elocevan Lestel, les airs de Mario dans Tosca, l'opéra de Giacomo Puccini, chanté par Marcello Alvarez, qui est donc en récital à l'Opéra National du Capitole, jeudi 1er février à 20h, où il va être accompagné par le pianiste Giulio Laguzzi. Nous allons nous diriger maintenant vers la Halle au Grain, où le vendredi 2 février à 20h, l'Orchestre National du Capitole est en concert. Voilà une soirée qui présente de nombreux intérêts, d'abord par le fait qu'il y a trois invités, et que parmi eux, il y a une chef. Alors depuis quelques années, ce n'est plus une rareté de voir des femmes diriger notre ensemble symphonique, mais là, il se trouve que la chef en question, c'est tout de même Nathalie Stoutman, Serge.
Mais oui, une grande chanteuse, il ne faut pas l'oublier, fille de chanteuse,
oui.
Et elle-même une voix de contralto qui a fait des merveilles. Hein,
oui.
Donc on est très heureux de la découvrir à la tête de l'Orchestre du Capitole, d'autant plus qu'elle est régulièrement invitée à diriger de grands orchestres internationaux, comme l'Orchestre Philadelphie, ou le Philharmonique de Rotterdam, notamment, et qu'elle a été saluée pour sa direction de Tannhäuser de Wagner à l'Opéra de Monte-Carlo, une œuvre qu'elle a également dirigée pour la première fois au Festival de Bayreuth 2023. Ça pose là son rôle de chef d'orchestre. Et donc là, elle vient avec deux solistes, la violoniste allemande Véronica Eberle et l'altiste français que l'on connaît bien ici, Adrien Lamarca, qui tous les deux seront les deux solistes de la symphonie concertante pour violon et alto de Mozart. Une œuvre magnifique.
Une œuvre formidable. Hein,
magnifique.
Qu'on n'entend pas souvent non plus. Hein.
Pas souvent, hélas. C'est vraiment un vrai dialogue.
Oui.
Formidable. Et puis, elle dirigera également la troisième symphonie de Brahms et une ouverture de Wagner, peut-être une allusion à sa participation au Festival de Bayreuth, puisqu'elle dirigera l'ouverture de Tannhäuser. Voilà.
Une des merveilles wagnériennes, une des ouvertures les plus connues du répertoire, notamment du répertoire wagnérien.
Exactement, exactement. Donc, Véronica Eberle est une jeune violoniste. Hein. Ça va être intéressant de la découvrir. Et quant à Adrien Lamarca, bon, c'est un grand altiste, bien connu. Et donc,
Frère du violoncelliste Christian-Pierre Lamarca.
Exactement, voilà. C'est une famille de musiciens. Et c'est, signalons qu'il a remporté le titre de révélation soliste instrumentale de l'année aux Victoires de la musique classique. Donc,
tous ses papiers sont en règle.
Une référence.
Oui. Je vais pouvoir vous faire entendre la troisième symphonie de Brahms dans une version interprétée par l'Orchestre du Capitole à la Halle au Grain il y a quelques années. Il s'agit du célèbre troisième mouvement Poco Allegretto. Le troisième mouvement, Poco Allegretto, de la troisième symphonie de Brahms, interprété par l'Orchestre National du Capitole à la Halle au Grain, dirigé il y a quelques années par le chef espagnol Juanjo Meña. Mais c'est donc Nathalie Stoutman qui va tenir la baguette vendredi pour un concert qui débute à 20h. Nous retournons une nouvelle fois à l'Opéra National du Capitole, où le samedi 3 février, les Sacboutiers donnent un concert à 20h. L'ensemble de cuivres anciens de Toulouse y présente son programme El Villano, Serge.
Oui, alors c'est un programme particulier. particulier puisqu'on on connaît la créativité des sacs-boutiers qui n'hésitent pas à associer la musique ancienne, qui est leur domaine essentiel évidemment, à d'autres univers artistiques comme le jazz d'ailleurs. Mais là, ce sera le flamenco avec lequel ils vont s'associer. Ils ont eu envie de convier sur scène une danseuse, chanteuse et percussionniste spécialiste du flamenco qui s'appelle Sabrina Romero. Et donc, elle participe avec eux à un programme totalement ouvert, totalement varié, avec des musiques populaires issues des pays méditerranéens, avec des œuvres de la Renaissance, mais également des œuvres de compositeurs actuels. Donc, il y aura d'ailleurs des œuvres de Sabrina Romero elle-même, et puis des œuvres des musiciens qui accompagnent les sacs-boutiers, avec deux musiciens qu'ils connaissent bien, mais qu'on ne s'attendait peut-être pas à voir associés avec des instruments anciens. C'est l'accordéoniste Grégory Daltin, tout de même, et le contrebassiste Denis Léoger, et puis Benoît Albert à la guitare. Et il y aura même d'ailleurs une œuvre de Benoît Albert, la suite marocaine, qui sera donnée parmi les grandes œuvres, notamment la fameuse œuvre qui donne son titre à ce programme, El Villano, qui est d'Antonio Martín y Coll, musicien de la Renaissance, avec quelques œuvres anonymes. On le voit, ça va être extrêmement varié et je crois extrêmement réjouissant.
Oui, ça j'en suis convaincu. Et au programme de ce concert El Villano, il y a aussi des œuvres de Claudio Monteverdi, oui. Et notamment celle-ci, Si Dolce e il Tormento, que nous écoutons dans une version de sacs-boutiers avec Benoît Albert à la guitare, Grégory Daltin à l'accordéon, Jean-Pierre Canillac au cornet à bouquin et Daniel Lassalle à la sacs-boute. Si dolce è il tormento, si doux est le tourment, pièce de Claudio Monteverdi, interprétée par les sacs-boutiers Benoît Albert, Grégory Daltin, Jean-Pierre Canillac et Daniel Lassalle. Et puis il y a trois autres musiciens que vous vouliez citer, Serge.
Oui, le ténor espagnol Victor Sordo, le percussionniste Florent Tisser et Hélène Médouz, la violoniste également, qui joue très souvent avec l'ensemble des sacs-boutiers. Donc c'est un ensemble de 9 musiciens pour ce programme totalement hors norme.
Et vous avez pu constater à quel point il est beau ce programme El Villano, donc donné à l'Opéra National du Capitole samedi 3 février à 20h. Et vous pouvez acheter et réserver vos places sur le site www.opera.toulouse.fr. C'est sur ce même site que vous pouvez faire vos réservations et acheter vos billets pour le midi du Capitole d'Alexis Isaef, jeudi 1er février à 12h30, et pour le récital de Marcello Alvarez, également le 1er février, mais à 20h. Idem pour les représentations de La Femme sans ombre, le mercredi 31 janvier à 19h et le dimanche 4 février à 15h. Et enfin pour le concert de l'Orchestre National du Capitole dirigé par Nathalie Stutzmann, vendredi 2 février à 20h à la Halle au Grain, avec la symphonie concertante pour violon et alto de Mozart, la symphonie numéro 3 de Brahms et l'ouverture de Tannhauser de Wagner au programme. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Serge Chosy et Robert Pénavert qui ont grandement contribué, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'animation de ce 258e numéro de Mélomanie. Merci aussi à Christophe Aubry qui l'a réalisé. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de votre écoute fidèle chaque mardi et mercredi. Très bonne semaine musicale, à bientôt.